Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'empreinte de l'histoire. Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, nous avons vu dans les épisodes précédents le Mont Saint-Clair avant 7, la naissance de la ville. Nous allons voir donc aujourd'hui dans cet épisode l'ensemble des grandes étapes qui ont façonné le paysage sétois et sa culture jusqu'à nos jours. Alors, bien évidemment, ce petit catalogue que je vais vous présenter est très loin de représenter, bien sûr, l'exhaustivité de ce qui s'est fait à 7 et de ce qui se fait à 7. En revanche, l'idée principale est de vous donner envie d'en savoir plus et de vous pencher sur les nombreux ouvrages ou sites internet qui sont consacrés à l'histoire et à la culture sétoise. Et encore mieux, d'aller vous-même faire des vacances, passer des bons moments à 7. Hier, nous avions laissé la ville et sa population à ses débuts. Or, dès ses premiers pas, la ville est confrontée à l'opposition séculaire entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. En 1710, en pleine guerre de succession d'Espagne, les Anglais lancent une offensive sur le port de Sète. 1500 hommes environ prennent la ville pendant 3 jours et sont chassés par le duc de Noailles. À la suite de cela, la défense du port est renforcée. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'est construit le fort Saint-Pierre par Jacques-Philippe Maréchal, qui d'ailleurs fut celui qui est à l'origine des Jardins de la Fontaine. Le fort Saint-Pierre, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Théâtre de la Mer, est un endroit merveilleux, encore aujourd'hui, pour assister à des concerts. En 1839, est ouverte au public la ligne de chemin de fer Montpellier-Sète, avec 3 trains par jour, ce qui fait de cette ligne une des premières de France, puisqu'elle fut inaugurée 2 ans après l'ouverture de la ligne Saint-Germain-en-Laye-Paris. En 1853, le maire de Sète, Émile Doumet, décide de donner du lustre aux joutes de la Saint-Louis et ainsi de faire venir de nombreux spectateurs avec justement l'aide de la récente ligne de chemin de fer Sète-Montpellier. À partir des années 1860, début de l'immigration italienne, venue surtout du sud de l'Italie, de Gaète dans le Latium jusqu'à la Sicile, les Italiens, surtout des pêcheurs, confrontés à la disparition des anchois dans leur région natale, fuient la misère. Ils trouvent un port d'attache avec la ville de Sète. Plusieurs vagues de migration italienne vont se dérouler jusqu'en 1940. Cette migration va surtout s'installer dans les quartiers hauts. Et c'est un élément important de la culture sétoise, puisqu'elle apporte justement sa culture notamment culinaire, qui va se mélanger, s'adapter à la culture languedocienne et donner ses spécialités comme la fameuse macaronade, la tielle, les encornets farcis, sans oublier la sauce aux anchois. Plus tard, de nouvelles migrations vont aussi apporter leur culture à la mosaïque sétoise. Je pense au rapatriement des pieds noirs et à l'immigration maghrébine, surtout marocaine, qui ont également apporté leur pierre à l'édifice culturel sétois. En 1904, est inauguré ce qui deviendra le Théâtre Molière, un théâtre à l'italienne. Ce bâtiment remarquable de style néoclassique, fait de rouge et d'or, fut en activité depuis sa création, sauf pendant la Première Guerre mondiale et pendant les rénovations qui ont eu lieu au début des années 2000. Enfin, le 11 juillet 1947, le paquebot président Warfield appareil du port de Sète, en direction de la Colombie, du moins officiellement, mais en fait en direction de la Palestine, avec 4530 juifs survivants de la Shoah à bord. Le commissaire spécial du port de Sète, M. Laurent Le Boutet, autorise le jeune capitaine d'origine américaine Ike Abramovich à appareiller. Or, après 5 jours de navigation, et hors des eaux territoriales françaises, le navire président Warfield change de nom et devient l'Exodus 1947 et navigue vers la Palestine. Enfin, à la création de la ligne de chemin de fer entre Montpellier et Sète, commence l'ère du tourisme. Dans un premier temps, un tourisme de cure, avec Coralie Inch, qui est la fille de Jean-Frédéric Inch, négociant allemand de vin et d'eau de vie, installé à Sète. Et la fille, donc, d'Elisabeth Arbus, protestante nimoise. Coralie Inch, elle, ouvre en 1847 un établissement de bains de mer destiné aux personnes défavorisées. C'est le premier établissement du genre sur la côte méditerranéenne française. Un autre établissement va ouvrir dans le Lazaret en 1865. Ce bâtiment militaire, qui était initialement destiné à l'accueil de soldats blessés et malades de la guerre de Crimée, va devenir, par l'église réformée de Sète, un lieu de bain de mer pour justement le soin des jeunes enfants. Deux saisons sont prévues à l'origine, l'une en juillet, la seconde en août. Puis le lazaret évolue avec le temps vers un établissement pour les vacances en bord de mer. Peu à peu, le tourisme sétois évolue au même rythme que la société française. Enfin, on ne peut pas passer sous silence le rebond de notoriété de la ville depuis plusieurs années. Sète s'est imposée comme une destination prisée par les réalisateurs et sociétés de production. Une situation qui renforce bien sûr l'économie locale. Sète comptabilise à elle seule 30% des tournages en Occitanie. Une réussite symbolisée par deux séries phares, même trois, Demain nous appartient, Candice Renoir et la série Tandem. Le succès de cette série participe à la notoriété de la ville et de nombreux touristes viennent découvrir le paysage et la culture sétoise. Si cela bénéficie à l'économie sétoise, attention bien sûr de ne pas y perdre son âme.
Pour tout renseignement, 09 53 49 85 50, contact@radioalliance-plus.fr.